chronique du jeudi dont le principe est de laisser à un grand lecteur le soin de nous donner son point de vue sur l'auteur dont il est question toute la semaine dans cette émission. Aujourd'hui, c'est Éric Marty, professeur à l'université Paris Diderot, également écrivain, qui vient nous parler de Duras et puis il nous présentera aussi son actualité culturelle, celle en tout cas qu'il a choisie. Bonjour Éric Marty.
Bonjour.
D'abord Duras. Que représente-t-elle pour vous? Je crois que vous voulez nous parler, vous aussi, de son cinéma.
Oui, parce que son cinéma, qui a été beaucoup critiqué, et même qu'il a posé en illégitimité, dont elle a eu à se défendre, au contraire, moi, me plaît énormément, m'intéresse beaucoup, par ses excès, mais aussi par sa rigueur. Et il était question justement du caractère moderne au fond de Duras, son inventivité proche des vidéastes dont vous parliez, mais il y a aussi un classicisme très puissant, dans le cinéma de Duras y compris, quelque chose, bon c'est un peu une banalité de dire ça, mais quelque chose de racinien, profondément
alors
racinien.
Alors là on n'est plus dans le cinéma si on est dans le théâtre.
Oui, on est dans l'art, je crois que c'est ça, la vraie question de Duras, c'est un rapport à l'art et à l'expression, et les catégories génériques sont peut-être un petit peu étroites, et cette dimension racinienne, c'est la parole, la toute puissance de la parole qui est chez Duras. Et moi qui m'a toujours évidemment beaucoup plu dans India Song, dans partout, y compris alors dans Hiroshima Mon Amour, dont elle n'est pas la réalisatrice, mais dont elle est la scénariste. Et à ce propos-là, il y a une chose qui me trouble beaucoup dans Les Yeux Verts dont il était question tout à l'heure, c'est qu'elle dit justement qu'au fond, oui, le cinéma parlant a été inventé dans les années 30, mais au fond, l'Hiroshima est le premier film dont les gens se récite des répliques. Et le se réciter, alors là, me semble être un verbe très important pour comprendre justement la fonction de la parole. Et donc,
on ne se parle toujours qu'à soi-même ou jamais
alors, qu'à soi-même. Au-delà des dialogues, justement, est-ce que vous disiez que c'était les dialogues qui comptaient chez Duras? Je crois que le mot dialogue, les dialogues est un petit peu restrictif. C'est au-delà du mot dialogue, c'est parce que c'est aussi des lectures qui s'opèrent, des formes de récits, de paroles, et elle dit même ceci, c'est, elle dit, la parole dans le cinéma commercial fait avancer l'image. Elle correspond souvent à une économie d'image. Bon. Et elle, c'est vraiment pas ça. C'est-à-dire que la parole a une sorte de puissance propre, et je trouve ça non seulement très beau, mais aussi ça donne une sorte de tempo au regard, parce que le jeu de la parole, justement, joue sur l'image. C'est pas seulement un dédain pour l'image et une mise en avant de la parole, c'est que la parole a un effet sur l'image, elle fait vibrer l'image, elle lui donne une sorte, une forme de lenteur, une forme d'immobilité, d'où le côté tableau dont vous parliez, qui d'ailleurs m'a fait penser tout d'un coup au rapprochement qu'on pourrait faire entre Duras et Klosowski, le Klosowski des films de Pierre Zucca, où il y a un côté, effectivement, tableau, immobilité, presque une sorte de fétichisme à un moment, des corps, des objets, et donc Duras n'est pas complètement seul dans son expression, elle est aussi associée à un mouvement qui lui est contemporain. Alors il y a Godard bien sûr dans le jeu du fonctionnement son image, mais il y a aussi Klosowski, Zucca, tout ça, il y a vraiment quelque chose
qui a un petit peu disparu aujourd'hui,
qui disparaît complètement aujourd'hui et qui est un peu affreux, et je crois que plus ça va, plus Duras passera pour illégitime, étant donné, je dirais, le régime, je dirais, de cinématographique qui est celui d'aujourd'hui. Je dirais une chose aussi, peut-être, c'est, il me semble qu'il y a, par exemple, dans Shoah de Claude Lanzmann, quelque chose, alors je ne sais pas si Claude Lanzmann serait content d'entendre ça, mais quelque chose qui reprend, au fond, un certain rapport au cinéma, un rapport évidemment au camp d'extermination, en Auschwitz, mais il y a quelque chose de très puissant dans Shoah qui lui aussi, me semble-t-il, entre en dialogue avec Duras, avec Hiroshima Mon Amour, mais aussi, bien sûr, avec Aurelia Steiner, avec toutes sortes de...
Voilà. Tout autre chose, l'actualité que vous avez sélectionnée pour nous, c'est le livre de Dany Laferrière qui paraît chez Grasset, livre très étrange et très beau, Autoportrait de Paris avec chat.
Oui, alors c'est un livre merveilleux que j'avais jamais lu avant Dany Laferrière. C'est le premier livre de lui que je lis et qui m'a ébloui. C'est un grand format, 300 pages. Ce sont en fait des planches dessinées, écrites à la main, rien n'est imprimé. Et c'est une sorte de grand jeu, de grande mémoire, au fond, de Paris. À la fois de Dany Laferrière, le point de départ est une sorte de journal qu'il tient sur son séjour à Paris, dans une sorte de chambre de bonne, du côté de la gare de l'Est, près du canal Saint-Martin. Et puis, peu à peu, le récit devient une sorte d'histoire de Paris. Et on trouve alors des formes d'épisodes, à la fois mythologiques et donc célèbres. Alors, c'est Proust à Paris. Ce sont aussi beaucoup les Américains de Paris. Il y a toute une page autour d'Henry Miller. Et puis, de ce monde-là, c'est aussi Barthes qui est évoqué avec très belle évocation, très sensible. Alors, ce qui est très beau, je trouve, c'est que le mélange de dessin et l'écriture graphique donne à la page une surface très, très belle. Mais cette surface est d'une subtilité constamment allusive, poétique, libre, c'est très drôle et c'est très émouvant. Et il y a une intelligence très profonde de Daniel Ferrière qui est derrière des dehors très très naïfs entre guillemets, qui joue un petit peu au haïtien de Paris, qui est haïtien et québécois puisqu'il a il vit à Montréal. Eh bien, introduit une connaissance inouïe. Je dirais de Paris et des grands événements mythiques de Paris. Et puis, donc, un jeu, une drôlerie, une intelligence et une subtilité, un art de citation extraordinaire. Il y a aussi un chat, comme on l'a vu, qui joue un rôle un peu comme le chat du rabbin.
Donc, c'est lui, ce chat. Ouais. C'est un autoportrait.
Voilà, c'est ça. Exactement. C'est très beau, c'est très intelligent, c'est très poétique. Et c'est vraiment un livre que j'ai adoré.
Et que vous conseillez. Merci beaucoup, Autoportrait de Paris avec chat. C'est donc chez Grasset. Ça vient juste de paraître. À très bientôt, Éric Marty.